Tout d'abord, je vous remercie pour votre venue, pour votre, je dirais acte de volonté de venir participer en nous dans la communion fraternelle pour fêter la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête, certes, qui n'a aucune existence biblique. C'est une, si je ne me trompe pas, c'est à l'époque l'empereur Constantin où on a, je dirais, remplacer une fête païenne par la fête de Noël, mais on va dépasser ce cadre-là parce que si nous nous réunissons, nous ne sommes pas là pour fêter le Père Noël, mais c'est pour nous rappeler que la nativité, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'arrivée de cette étoile annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Ce matin, le culte se déroulera de la manière suivante, c'est que nous allons effectuer des lectures, des partages, des chants autour de la naissance, autour de la nativité. Soyez libres si vous avez quelque chose à partager avec nous. Et nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Psaume 95, versets 1 à 6. Psaume 95, versets 1 à 6. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est notre attitude de ce matin. Pour commencer, je demande à Dorothea si tu peux prier.
Seigneur, merci pour cette invitation glorieuse. Tu nous invites à nous joindre à toute cette musique qui est déjà dans le ciel existante. Qui chante déjà toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24. Tu as un cœur formidable et des anges de tous les niveaux, des anges avec des instruments qui ne sont inconnus. Ils sont là à battre des mains, à chanter, à jubiler autour de ton trône. Et tu nous invites à nous joindre à ce cœur glorieux. Amen. Merci Seigneur.
Amen. Nous continuons notre lecture dans la parole de Dieu. Et nous allons partager trois passages dans la Bible qui nous annoncent la naissance du Seigneur dans l'Ancien Testament et le rappel de ce passage dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Il faut bien en choisir quelques-uns, en sachant que ce matin, les enfants vont nous faire aussi des lectures dans la parole de Dieu. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Ce n'est pas un accident de l'histoire, la naissance de Jésus. C'est annoncé de toute éternité. Et celles et ceux qui ramènent la naissance de Jésus à une solution au mal qu'on trouve dans ce monde, je pense qu'on réduit la réalité éternelle du Seigneur Jésus-Christ, qui est annoncée de toute éternité, que tout doit passer par cet amour, cette communion avec Dieu, pour bénéficier de l'éternité. Et par là, bien entendu, par cette métamorphose qui ne peut s'opérer qu'à travers la croix. Une naissance, souffrance pour Dieu, joie pour nous, qui prépare une œuvre encore plus grandiose, celle de monter sur la croix, nous porter en lui, et qui ouvre aussi la porte de la résurrection. Et c'est l'objectif de la création. Ne ratons pas cet objectif en tant que peuple de Dieu. Deuxième lecture, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Une annonce prophétique. Reprise par Matthieu dans le Nouveau Testament. Et en nous lisant dans Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous comprenez? Le Nouveau Testament, les hommes de Dieu, les évangélistes reprennent la parole de l'Ancien Testament pour confirmer. Voilà le Seigneur, Dieu est parmi nous. Nous continuons notre lecture dans la parole de Dieu et maintenant je vais laisser la place aux enfants. Il y en a qui aiment passer devant, d'autres n'aiment pas, donc je vais m'adapter. Donc la première lecture, ça sera dans quoi ?
Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la donation reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Nous continuons notre lecture dans la parole de Dieu et nous allons maintenant laisser encore la place aux enfants pour une lecture dans l'évangile de Luc. Tu peux venir devant.
Donc je vais lire un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 10, sur la naissance de Jésus à Bethléem. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa dans de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut à la gloire du Seigneur, resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. »
Nous continuons toujours dans la lecture de la parole de Dieu et nous restons dans l'évangile de Luc. Et je laisse la place encore aux enfants pour la lecture.
Alors, je vais lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, du verset 11 à 20. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils s'adressaient des louanges à Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'il avait entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Nous continuons notre lecture de la parole de Dieu, toujours avec les enfants, on va dire un peu, on va dire enfants, adolescents, et je laisse la place maintenant pour une nouvelle lecture dans Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3.
Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront avec l'Éternel des offrandes avec justice.
Merci. Nous continuons notre lecture, et cette fois-ci, donc ce sera dans les psaumes, et ce sera psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Merci beaucoup les jeunes, les enfants, pour ces lectures de la parole de Dieu. C'est rafraîchissant quand on voit les jeunes qui partagent avec nous cette nourriture spirituelle. Juste pour préparer le repas du Seigneur, ce repas instauré par le Seigneur et qui n'est rien d'autre qu'une reprise de ce qui se fait déjà dans le peuple de Dieu, mais qui lui a donné encore un sens plus profond. On n'est plus dans une relation, nous et Dieu, mais on est dans une communion. Il n'y a plus Dieu et nous, mais nous sommes ensemble. Dieu nous a intégrés dans cette communion avec lui, représenté par ce repas que nous prenons, ce pain que j'ai brisé devant vous, symbole du corps du Christ brisé, et nous allons tous manger du même bout de pain que vous avez devant vous. C'est un signe de communion. Nous partageons la même énergie. C'est ce pain que nous partageons ensemble, qui représente ce corps brisé, non seulement pour nous, mais nous intègre dans ce brisement, c'est-à-dire nous devons porter notre croix aussi pour vivre cette métamorphose. Et bien entendu, nous intègre dans une nouvelle alliance, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, représenté par ce breuvage, ce vin au jus de raisin, qui représente une nouvelle alliance, un nouveau monde, mais aussi représente le sang versé par le Seigneur Jésus-Christ qui nous couvre de nos péchés. Le Seigneur nous regarde à travers la croix, lavé en Christ. Si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne viendrons jamais devant le Seigneur. Nous sommes coupables, mais parce que Dieu nous permet que ce sang nous couvre en Christ, nous pouvons vivre librement. Il nous regarde parfait en Christ. Bien que cette lecture que je vais vous faire, courte, très courte, ne concerne pas directement le repas du Seigneur, mais ça parle de cette étoile. Cette étoile que les mages ont vue, et cette étoile que nous devons suivre. Ce tout petit partage qui vient de John Alexander, le fondateur des églises Action Biblique, qui était un enseignant à l'IBG, l'Institut Biblique de Genève. Il est parlant, très court, mais qui parle à notre cœur. La scène se situe quelque part dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Il y a quelques, on va dire 2020, 2024, 2025 ans, on n'est pas trop... Voilà. Des savants chaldéens qu'on appelait alors les mages, scrutaient le firmament tout en consultant le nombreux rouleaux de parchemin qui constituaient leur bibliothèque. Ainsi ont-ils appris par la loi de Moïse, livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, que le peuple juif verrait la naissance d'un roi et que sa venue serait signalée par l'apparition au ciel d'une étoile particulière. Leur double spécialité les avait donc préparés à l'événement. Aussi, lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem à dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi d'Hérode, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Les mages avaient vu l'étoile, le signe annoncé par le texte sacré. Ils avaient obéi à l'avertissement du ciel et s'étaient mis en route. Mais à Jérusalem, nul n'était préparé à la nouvelle qu'ils annonçaient. Aussi a-t-il fallu que le cruel roi Hérode soit bien troublé pour devoir faire appel aux scribes, détenteurs des rouleaux des prophètes, et apprendre d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Et c'est ainsi qu'Hérode priera les mages de poursuivre leur voyage vers Bethléem et de l'y précéder. Au départ, le texte sacré avait fait comprendre aux mages la signification de l'étoile. À l'arrivée, le texte sacré les a conduits au Sauveur. Et cette journée, nous n'avons pas, et en cette journée, aujourd'hui, en cette journée, nous n'avons pas à suivre notre bonne étoile. Comme on entend dire, mais pourquoi l'étoile des mages d'Orient ne nous amènerait-elle pas au texte sacré pour que nous y découvrions à notre tour le Sauveur du monde? Si vous voulez cette année fêter Noël dans l'esprit de Noël, commencez par chercher la vieille Bible que vous avez peut-être oublié depuis longtemps, ou de vous en procurer une si vous ne l'avez pas encore, et lisez et relisez les récits racontant le premier Noël, le vrai Noël. Nous arrivons au terme de notre culte, de notre rassemblement autour de la fête de la Nativité. Je termine par une lecture dans la parole de Dieu avant de laisser la place pour Jean-Louis pour la prière de clôture. Tite, la lettre d'apôtre Paul à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions. Tu t'es manifesté parmi les hommes pour que nous puissions comprendre que tu es amour, bonté, bienveillance. Tu es compatissant. Tu nous pardonnes malgré tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons. Notre Dieu, je veux associer à cet instant ton Église universelle, ton Église persécutée, ceux qui sont obligés de se cacher, de fuir, voire de mourir parce qu'ils prononcent ton nom, Jésus. Nous n'oublions pas ton étoile, qu'elle brille toujours dans notre âme, dans notre esprit. Nous te rendons toute la gloire qui te revient par ton Fils Jésus. Amen.
Amen.